Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je reviens avec une pensée autour de tout ce qui est imaginaire intérieur et philosophie de vie, spécifiquement en ce qui concerne les relations à autrui, que ce soit nos proches, nos relations de travail, ou bien les relations parasociales, comme les gens avec qui on interagit sur internet par exemple. Et ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai appris à ne plus avoir d'attente et à poser des limites à la place. Et j'ai envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'aide énormément à oser devenir qui je veux être, aussi bien dans ma vie personnelle, artistique, professionnelle. Et c'est une chose qui m'aide à avoir le courage, en fait, de tracer mon chemin d'artiste indépendante. Donc c'est quelque chose d'hyper important, en fait, dans mon évolution. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, j'enregistre ça dans un environnement qui est un petit peu différent de d'habitude. Je suis chez quelqu'un d'autre. Il y a des travaux dans ma salle de bain en ce moment. Et j'ai eu l'occasion de passer quelques jours ailleurs, ce qui nous a fait un bien fou. Et aujourd'hui, je travaille donc seule dans cet endroit. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour enregistrer le podcast de ce mois-ci, puisqu'avec les travaux qui se passent chez moi et le fait que je travaille à domicile, eh bien c'est pas évident d'avoir une bulle de calme pour pouvoir enregistrer de l'audio. Donc voilà un petit peu de coulisses de comment ça se passe quand on est indépendant et qu'on enregistre son propre contenu. Donc là je profite vraiment de cette bulle de quiétude, ça me fait super plaisir de vous parler, et ce sujet-là, des attentes et des limites, c'est un sujet qui me travaille depuis des années, qui a été abordé dans des contenus de coaching en fait que je suis, parce que je suis coachée depuis quelques années, et j'ai aussi fait pas mal d'auto-coaching, c'est-à-dire de travailler moi-même sur mon imaginaire intérieur à travers des exercices, etc. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose d'hyper utile. Ça, on en reparlera, je pense, dans un contenu dédié, mais j'ai pu grandir en tant qu'artiste indépendante et en tant que créatrice de maison d'édition, en tant qu'entrepreneuse, appelez ça comme vous voulez. J'ai pu grandir professionnellement parce que j'ai grandi personnellement. Parce que j'ai cassé des barrières, finalement, mentales. Parce que j'ai changé mon imaginaire intérieur et que j'ai appris à rendre possible ce futur-là pour moi, en commençant par ma perception de moi-même et de ce qui est possible pour moi. Donc tout le travail sur soi, je trouve que c'est un truc qui est hyper important. D'ailleurs, qu'on soit entrepreneur, indépendant ou pas du tout, parce que c'est vraiment ce qui conditionne. Enfin, j'ai compris ces dernières années que notre état d'esprit, notre qualité de conscience, comme l'appellerait Arthur Schopenhauer, ce que moi j'appelle notre imaginaire intérieur, c'est-à-dire notre vision du monde, de nous-mêmes, de notre passé, de ce qui nous entoure, de ce qui justement est possible ou pas pour nous, conditionne ce qu'on va vraiment s'autoriser à faire. On en a parlé dans l'épisode sur l'identité de ça, mais je sais pas si on a conscience, même si les contenus justement de coaching, un peu à l'américaine, tout est possible, il suffit de le vouloir, machin, alors évidemment que c'est pas si simple que ça, c'est une conversation qui nécessite de la nuance et dont on reparlera dans un podcast dédié, mais ça reste pour moi hyper important de vraiment prendre conscience de la corrélation réelle qui existe entre ce qu'on s'autorise à s'imaginer finalement et ce qu'on va vraiment créer pour notre futur. C'est hyper important ça. Et moi c'est vraiment le point qui m'a permis d'évoluer et d'oser devenir artiste indépendante et d'oser aujourd'hui créer une maison d'édition. C'est quelque chose que j'aurais jamais osé en rêver il y a 6 ans à l'époque où j'ai fait mon burn-out. Et aujourd'hui je suis en train de le vivre. Et je suis en train de le concrétiser dans ma vie, et je suis en train de me prouver moi-même que c'est possible, donc c'est hyper hyper important pour moi, ce travail sur soi-même en fait, en tant qu'être humain, parce que notre cerveau et notre imagination ont un pouvoir incroyable. C'est un pouvoir qui peut être positif et créateur quand on cultive justement le sens du possible, ou bien ça peut être un pouvoir qui nous retient, qui nous maintient dans notre sécurité de notre vie actuelle et qui nous raconte l'histoire que c'est pas possible pour pas qu'on soit dans notre zone de confort. Donc c'est vraiment un pouvoir à double tranchant qui peut nous retenir ou nous donner des ailes, et c'est tellement important de mettre de l'intention sur tout ça, sur tout ce qui est notre imaginaire intérieur. Mais c'est, enfin, personnellement c'est ça qui me change la vie hein, depuis quelques années, donc c'est vraiment hyper important. Et je voulais vous parler aujourd'hui spécifiquement d'une leçon ou en tout cas d'un changement de perception dans mon imaginaire intérieur, spécifiquement en lien avec la relation aux autres, ce que j'attends des autres et les peurs que je peux avoir par rapport aux interactions que les autres peuvent avoir avec moi, qui m'a énormément retenue pendant des années et qui est en train de se transformer petit à petit grâce à ce changement particulier qui est de ne plus avoir d'attente et à la place de placer des limites. Et ça, je vous en parle depuis ma place d'artiste indépendante, mais je pense que c'est utile dans la vie personnelle aussi, quelles que soient vos conditions de vie, quelle que soit votre carrière professionnelle, si vous voulez. C'est pas utile que dans le pro, c'est aussi utile dans le perso. Pourquoi ? Alors, on va rentrer dans le détail de cette discussion. Pour commencer, qu'est-ce que j'appelle avoir des attentes ? C'est important de poser des définitions claires sur les termes que j'utilise pour s'assurer qu'on parle de la même chose. Alors, avoir des attentes, ça veut dire attendre un certain comportement, une certaine attitude de la part d'autres personnes, tout simplement. Par exemple, quand j'invite quelqu'un chez moi, j'attends qu'il ou elle apporte un petit cadeau parce que c'est ce que dicte la politesse. Quand quelqu'un laisse un commentaire sous mes contenus, j'attends qu'il ou elle soit poli et que le commentaire soit pertinent, par exemple. Quand je fais un devis de travail avec un partenaire potentiel, j'attends que ces partenaires-là soient professionnels, précis, clairs et ponctuels. Je les embauche pour un travail, j'attends qu'ils fassent le travail de manière qualitative. Quand c'est mon anniversaire, j'attends de mes amis qu'ils s'en souviennent et qu'ils m'envoient un petit mot. On pourrait faire une liste infinie d'attentes qu'on place sur le comportement d'autrui. Que ce soit nos proches, notre famille, nos amis, dans le cadre du travail, les inconnus dans la rue, comment on attend qu'ils se comportent dans les lieux publics, etc. etc. Et c'est tout à fait logique, hein, puisqu'on a été conditionné par la société pour attendre certains comportements pour pouvoir vivre en société. C'est-à-dire que pour vivre ensemble, on est bien obligé de suivre certains codes sociaux. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que si on n'avait aucun code commun de politesse, de comportement en public, etc., ce serait l'anarchie, je veux dire. Voilà, on est bien obligé d'avoir des lois communes, d'avoir une culture commune, d'avoir des attentes communes pour pouvoir fonctionner en société. Donc, quand je dis que d'un point de vue personnel, je souhaite ne plus avoir d'attentes et remplacer ça par des limites que je pose, ça veut pas dire qu'il faudrait que la société n'ait plus de lois et qu'on ait plus de codes de conduite, etc. C'est pas du tout ça que je veux dire. Là, je parle vraiment à un niveau interpersonnel, relationnel, individuel. Mais en résultat de justement ces codes sociaux, on va dire systémiques, qui ont leur raison d'être, en résultat de ça, on grandit, nous en tant qu'individus, en formant un certain nombre d'attentes vis-à-vis des autres êtres humains qu'on croise dans notre vie. On se dit que les gens devraient se comporter comme ceci, comme cela, et s'ils ne le font pas, on estime qu'ils ont tort. Maintenant, en quoi ces attentes-là, ces attentes individuelles qu'on pose sur les gens, que ce soit des proches ou des inconnus, en quoi est-ce que ça peut poser certains problèmes ? Ou en tout cas, en quoi, moi personnellement, ça m'a posé certains problèmes qui ont fait que j'ai voulu travailler là-dessus. D'abord, ces attentes sont focalisées sur le comportement de l'autre personne. Or, jusqu'à preuve du contraire, on ne contrôle pas les actions des autres personnes. Du coup, on s'expose à beaucoup d'émotions désagréables, comme par exemple la frustration ou la déception, lorsque les autres êtres humains, qui ont le mauvais goût d'être dotés de libre arbitre et de faire ce qu'ils veulent au lieu de répondre à nos attentes, décident de se comporter différemment de nos attentes. Donc déjà, ça peut être très très frustrant, finalement, de placer beaucoup d'importance sur quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas changer, en fait. Hein, on peut pas changer la manière dont les autres ont été élevés, on peut pas changer leurs valeurs, on peut pas changer leur attitude en public. Si quelqu'un est mal élevé, on peut pas vraiment changer ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout le souci, parce que bon, être frustré par quelqu'un qui se comporte pas comme on veut, voilà, ça fait partie de la vie, l'émotion de frustration, ça fait partie de la palette d'émotions qu'on ressent en tant qu'être humain. Personne n'en est mort, hein, c'est pas très grave. Mais par contre, le vrai problème à mon sens autour des attentes, en tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup, je ne pense plus à mon propre comportement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que vu que mes attentes se focalisent sur le comportement de l'autre, qui devrait se comporter comme ceci ou comme cela, j'ai tendance à focaliser mon attention sur ce que la personne devrait faire. et comment elle échoue finalement à être qui elle devrait être, plutôt que de me demander quelle personne je souhaite être, moi. Quels sont mes comportements et mes actions, et si moi je me comporte comme j'aimerais me comporter finalement. En d'autres termes, si j'ai par exemple l'attente que mes amis envoient un message à mon anniversaire et qu'ils ne le font pas, je vais juger leur amitié. Je vais me dire ce sont de bons amis, de pas bons amis. Mais dans cette réflexion, à aucun moment je ne me demande quel ami je suis moi pour eux. Est-ce que j'ai envoyé un message pour leur anniversaire moi ? Je pense plus à moi en fait, je pense plus à mon comportement et comment moi je devrais me comporter parce que je suis en train de me focaliser sur comment l'autre se comporte et je suis en train de m'insurger parce que j'ai pas reçu de message à mon anniversaire ou parce que le voisin il a laissé des affaires dehors et qu'il envahit les espaces publics et que ça le dérange pas. Du coup je me focalise vraiment sur l'autre et j'en oublie de me demander si moi je me comporte en accord avec mes propres valeurs et si moi je suis une bonne amie, une bonne voisine, une bonne fille, une bonne nièce, une bonne sœur, etc. Donc ça, c'est un premier souci. C'est que je me focalise tellement sur l'indignation du comportement des personnes qui répondent pas à mes attentes que du coup, je ne me focalise plus sur mes comportements à moi. Un autre souci avec les attentes qui découle aussi de tout ça, c'est que je perds le pouvoir, je perds ma souveraineté intérieure quelque part. Parce qu'à chaque fois que mes attentes envers autrui sont trahies, et ça arrive souvent puisque les autres se trouvent être différents de moi, et donc ils portent des valeurs qui sont pas les miennes, ils ont pas été élevés comme j'ai été élevée, et donc forcément, il y a un moment donné où ils vont pas se comporter comme moi, je me serais comportée à leur place, c'est logique. Mais du coup, à chaque fois que ces attentes ne sont pas remplies, je vais ressentir des émotions désagréables, comme je le disais, de la frustration, de la déception, un sentiment d'injustice, d'indignation, peu importe. Et du coup, pour éviter ces émotions désagréables, je vais peut-être chercher à manipuler le comportement de l'autre pour qu'il commence à répondre à mes attentes. Puisque je pars du principe que c'est de leur faute que je me sens mal, eh ben je vais essayer de manipuler le comportement de l'autre. Par exemple, je vais faire un petit commentaire passif-agressif à mon ami qui m'a pas envoyé de message pour mon anniversaire pour essayer de le faire se sentir mal et qui m'envoie un message à mon prochain anniversaire, par exemple. Vous voyez le genre d'attitude qu'on peut avoir quand on essaye de manipuler le comportement de l'autre. Et en essayant de manipuler le comportement de l'autre, peut-être que je vais justement faire des choses qui ne me ressemblent pas à moi. Moi, ça me ressemble pas d'être passive-agressive avec mes amis et de faire tout un caca nerveux parce qu'ils n'ont pas envoyé de message à mon anniversaire. Peut-être qu'ils avaient une raison de le faire. Et peut-être que moi, l'attitude que j'aimerais avoir profondément en accord avec mes valeurs, c'est plutôt de faire preuve de compassion et de leur demander s'ils vont bien. Plutôt que d'essayer de les faire culpabiliser de m'avoir oublié à mon anniversaire. Ce genre de comportement, ça me ressemble pas. Mais si j'essaye d'éviter les émotions désagréables, donc des attentes non remplies par autrui, et que j'essaye de les éviter en manipulant leur comportement, je me recentre plus sur mes valeurs à moi. Enfin, tout ça c'est lié en fait. Je me retrouve non plus à me centrer sur mon comportement, mes valeurs, comment moi je veux me comporter, et je ne deviens pas la personne que je pourrais être, puisque du coup, mon comportement, il vient dépendre des attentes des autres, il vient dépendre d'aller manipuler le comportement de l'autre, plutôt que de dépendre de qui j'ai envie d'être moi, en fait. En d'autres termes, je donne mon pouvoir intérieur aux autres en conditionnant mes émotions et mes actions à leur attitude. Je perds ma souveraineté intérieure. Je perds finalement le pouvoir sur mon propre comportement, sur la personne que j'ai vraiment envie d'être moi, et sur ce que moi je veux apporter au monde en fait. Je me retrouve à me comporter en réaction à l'autre, en permanence, je leur donne le pouvoir sur mes émotions et sur mes actions. Donc je perds ma souveraineté intérieure. Donc ça pour moi, en plus moi qui place la valeur d'indépendance et d'autodétermination, toutes ces valeurs-là, ce sont les valeurs les plus brillantes de ma constellation de valeurs. Autant vous dire que de donner le pouvoir aux autres sur mes émotions et sur mes actions et mes comportements, c'est quelque chose qui me rendait très malheureuse. Hein. Après on est tous différents, mais pour moi c'était vraiment un très très gros problème ça. Un autre gros problème que j'ai trouvé à trop me focaliser sur les attentes que je porte aux autres, c'est que je finis par considérer l'autre comme une commodité plutôt qu'un être humain à part entière qui a finalement le droit de ressentir les choses différemment, de choisir d'agir différemment, d'avoir une culture différente, d'avoir une éducation différente, etc. C'est-à-dire que quand on veut que les autres répondent à nos attentes pour qu'on se sente bien, Donc quelque part, on attend des autres qui s'occupent de nos émotions, qui nous fassent nous sentir bien. Eh bien, on veut qu'ils se conforment à nos envies, finalement. Quand je veux que X réponde à mon attente, je veux qu'ils se conforment à mes envies. Plutôt que de les accueillir tels qu'ils sont. C'est-à-dire que plutôt que d'écouter la personne en face, avec curiosité, de comprendre pourquoi ils choisissent d'agir comme ils le font, d'essayer de comprendre leur personnalité, leur culture, d'où ils viennent en fait, d'où vient ce choix d'agir comme ils le font, au lieu d'accepter ces personnes telles qu'elles sont, d'accepter leurs valeurs, d'accepter leurs actions, leurs comportements, en fait je me mets dans un tel esprit de jugement face au fait qu'ils ne remplissent pas mes attentes. Et je me mets dans un tas de jugements de comment ils prêtent attention à mes besoins à moi, mes envies à moi, mes valeurs à moi, plutôt que de me demander quelles sont leurs envies, leurs besoins et leurs valeurs. Donc, en d'autres termes, au lieu de traiter la personne en face comme un être humain, qui a un libre arbitre comme moi, qui a le droit d'avoir ses valeurs comme moi, qui a le droit d'avoir ses attentes comme moi, qui a le droit d'avoir son choix de comportement comme moi, et finalement de le traiter dans une relation d'être humain à être humain, de personne à personne, je traite l'autre comme un outil qui est censé faire comme je veux, répondre à mes attentes et répondre à mes besoins. C'est une objectification de la personne en face, en fait. Et au-delà de ça, quelque part, quand on soumet une relation à nos attentes, on cherche à imposer notre vision du monde à la personne en face. On cherche à leur imposer notre code moral, au lieu de comprendre et de respecter comment ces gens-là choisissent de vivre leur vie à eux. On se coupe en fait de la possibilité d'une vraie relation d'être humain à être humain, d'accueillir l'autre tel qu'il ou elle est, et on se coupe de l'opportunité d'être à leur écoute, plutôt que de préjuger de comment ces personnes devraient agir. Donc je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là, parce qu'on est dans le conceptuel là, hein. Bienvenue dans mon cerveau. Mais en gros, le fait de porter des attentes à l'autre, ça fait qu'on leur impose notre vision du monde, qu'on n'écoute pas, en fait, qui ils ou elles sont en tant qu'être humain. Et ça, je crois, avec le recul, que c'est peut-être ce qu'il y a de plus préjudiciable, en tout cas pour moi, à avoir trop d'attentes envers les gens qui m'entourent. C'est que je me rends compte que ça me coupe d'eux, parce que je passe mon temps à me dire comment ces gens-là devraient être, plutôt que de les accueillir comme ils sont et de les découvrir tels qu'ils sont avec curiosité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, mais notamment pour les proches, parce qu'après les inconnus qui laissent des messages méchants sur internet, j'ai pas forcément envie de, pas forcément besoin de comprendre pourquoi, etc. Mais mes proches, par exemple, c'est dommage en fait de créer du conflit à cause d'attentes non remplies, au lieu d'être vraiment dans une posture d'accueil, d'écoute, de curiosité pour découvrir nos proches, nos amis, notre famille, et les accueillir tels qu'ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Alors si les attentes envers autrui, encore une fois à un niveau individuel, me pose autant de problèmes, qu'est-ce que j'apprends à faire à la place? Ne pas avoir d'attente, ça veut pas non plus dire se laisser marcher dessus comme un paillasson et dénigrer totalement nos propres besoins à nous, parce que nous aussi on est des êtres humains avec une souveraineté, avec des besoins, avec voilà. Et ça veut pas dire que parce qu'on accueille l'autre dans ses choix et qu'on laisse finalement le droit à la personne en face de se comporter comme elle veut, ça veut pas dire qu'on tend l'autre joue et qu'on se laisse être maltraité, qu'on laisse nos besoins ne pas être respectés, et qu'on se laisse martyriser par la personne en face. Ça veut pas dire qu'on laisse les autres nous faire du mal, en fait. C'est ça la nuance. C'est-à-dire que ne pas avoir d'attente de comportement, ça veut pas dire qu'on tolère tout, y compris ce qui ne devrait pas être toléré. Et en fait, c'est pas plus équilibré. C'est-à-dire que porter trop d'attente envers autrui et vouloir les former à notre image, à nos valeurs, c'est pas très sain, mais se laisser marcher dessus comme un paillasson et ne jamais affirmer nos propres besoins, c'est pas sain non plus. Dans une relation équilibrée, ça contient les deux en fait, hein, c'est que les deux personnes, moi et la personne en face, On a tous les deux le droit d'exister, on a tous les deux le droit d'être qui on est, mais on a aussi tous les deux le droit au respect de soi et au respect de nos besoins, voyez. Donc pour une relation saine, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Et donc du coup, pour justement maintenir cet équilibre, si je ne le maintiens pas via des attentes d'une certaine bienséance ou que sais-je de la part de l'autre, comment est-ce que je maintiens cet équilibre? Je le maintiens en posant des limites. Alors, qu'est-ce que j'appelle poser des limites? On va recommencer par une petite définition de ce que j'entends par là pour être sûr qu'on parle de la même chose. Les limites, c'est un cadre que l'on choisit de poser pour soi. C'est centré sur nous-mêmes, sur notre comportement, sur nos réactions face à de potentielles attitudes d'autrui. On réagit comment on choisit d'agir, on choisit comment on protège nos propres besoins. Quand on pose une limite, quand on pose un cadre, une structure, ce n'est pas contre l'autre, ce ne sont pas des menaces pour manipuler le comportement de l'autre, ce sont des choses qu'on pose pour soi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que peut-être qu'à ce stade vous vous demandez, mais quelle est la différence? Je vais vous expliquer un petit peu comment personnellement j'ai choisi d'interpréter et d'implémenter les choses. Donc pour reprendre certains exemples que j'avais évoqués plus tôt pour donner des exemples d'attente, des exemples de limites qu'on peut poser à la place. Donc quand j'invite quelqu'un chez moi, j'attends qu'il ou elle apporte un petit cadeau parce que c'est ce que dicte la politesse, donc ça c'était l'attente. Ça devient, si mes amis ne m'apportent pas de petits cadeaux quand ils viennent, en fait je décide que ça m'est égal, parce que ce qui compte pour moi c'est de les voir, d'être là, qu'ils aient fait le chemin, et finalement je leur en tiendrai pas rigueur parce que cette règle de politesse là n'est pas importante pour moi. Donc là-dessus je poserai pas de limite en fait. Enfin ça m'est égal qu'ils viennent sans petit cadeau. Autre attente, quand quelqu'un laisse un commentaire sous mes contenus, j'attends qu'il ou elle soit poli et que le commentaire soit pertinent. Donc là ça devient, par exemple, si quelqu'un laisse un commentaire injurieux sous mes contenus, je supprimerai le commentaire pour préserver l'apaisement et la bonne ambiance de la section commentaires et de la communauté. Parce que ça n'affecte pas que moi, en plus un commentaire injurieux, ça va affecter les autres personnes qui vont le lire. Donc là c'est une limite que je pose. Si quelqu'un laisse un commentaire injurieux sous mes contenus, je supprimerai le commentaire. Quand c'est mon anniversaire, j'attends de mes amis qu'ils s'en souviennent et m'envoient un petit mot. Donc ça, c'était l'attente que j'avais donné en exemple plus tôt. Et là, dans une limite, ça devient, quand c'est l'anniversaire de mes amis, je leur envoie un petit message. Si je constate que je suis toujours la seule à entretenir l'amitié et que l'autre personne ne m'envoie jamais de petits messages, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Nouvel An, ou voilà, si je constate que c'est moi qui envoie un petit message mais que j'ai jamais de retour, voilà, que l'amitié n'est pas équilibrée, alors je diminuerai l'énergie que j'accorde à cette relation. Peut-être que je choisirai de continuer à envoyer un petit message pour l'anniversaire, mais pas le reste de l'année. Ou peut-être que je finirai par arrêter d'envoyer un message pour l'anniversaire. La limite vient protéger mes besoins. Besoin de sécurité, besoin de sérénité, par exemple. Elle vient protéger mon énergie, elle vient protéger mes valeurs. Voyez par exemple l'exemple de quand mes amis viennent sans un petit cadeau, je m'en fous, parce que moi c'est pas dans mes valeurs de respecter les codes de conduite de la politesse telle que dictée par la société. Ça m'est égal tant qu'ils sont là. Donc ça me permet de respecter mes valeurs et d'honorer finalement ce qui est important pour moi en fait. La limite me permet de me demander comment moi j'ai envie de me comporter. Vous voyez l'exemple du petit message de l'anniversaire, c'est recentré sur à quels amis j'ai envie, moi, d'envoyer un petit message pour leur anniversaire, quel ami j'ai envie d'être. Alors certes, en fonction du comportement d'autrui, c'est-à-dire que si l'ami en question, en fait, il fait jamais aucun effort, bah peut-être que moi je vais lever le pied aussi pour préserver mon énergie, et pour rester dans des relations qui sont saines et équilibrées, et donner mon énergie vers des relations, des amitiés qui sont plus réciproques, qui sont davantage réciproques, j'entends. Mais dans tous les cas, c'est... ça se centre sur comment moi je me comporte, quel ami moi j'ai envie d'être, au lieu de me centrer sur le comportement de l'autre. Ça me permet de me concentrer sur mes priorités, mes valeurs. En fait, c'est une manière de me protéger et c'est une manière de définir et d'honorer la personne que j'ai envie d'être. Mais là, la nuance qui est importante à comprendre, et que moi j'ai mis longtemps à comprendre quand on parlait de limites et d'attentes dans les contenus de coaching, etc., c'est que la limite qu'on pose pour soi, c'est pas un jugement direct du comportement de l'autre. Ma limite, elle est centrée sur mon comportement à moi, la réaction que je choisis d'avoir face au comportement de l'autre. En fait, la limite, elle respecte le libre arbitre de la personne en face et me permet d'exercer mon propre libre arbitre en réponse. Donc maintenant, en quoi est-ce que je trouve les limites plus saines que les attentes ? D'abord, elles sont centrées sur moi, sur mes besoins et mes actions. Elles sont centrées sur la personne que j'ai envie d'être plutôt que d'essayer de manipuler le comportement des autres. Donc du coup, comment vous dire ? Ça se recentre sur moi, comment j'ai envie d'agir et de réagir au choix des autres, sans me dire que l'autre devrait choisir de se comporter différemment. Donc il n'y a pas tout ce côté manipulation du comportement de l'autre. Et en plus, ça me permet de moi aussi me recentrer et respecter et honorer mes propres valeurs, mes propres comportements, et me demander si moi je me comporte comme j'aimerais me comporter, voyez. Par exemple, quand je vais me constater que tel ami n'a pas envoyé de message à mon anniversaire, peut-être que je vais me demander, mais attends, c'est quand la dernière fois que moi je l'ai contacté ? Est-ce que j'ai envoyé un message pour son anniversaire ? Est-ce que notre amitié, elle est en train de s'éloigner de manière naturelle ? Ou est-ce que moi, j'ai pas été là pour lui aussi ? Vous voyez, ça permet de me concentrer, de remettre en question mon comportement à moi, plutôt que de me centrer sur le comportement de l'autre. Et ça me permet d'accueillir, en fait, tout l'éventail des possibilités des actions d'autrui, puisque je me dis pas il devrait se comporter comme ça, c'est la personne a le loisir de se comporter comme il ou elle veut, mais le bémol, c'est que je pose des limites à ce que moi je vais accepter du comportement de l'autre. L'autre se comporte comme il veut, mais par contre si son comportement dépasse mes limites, je vais réagir. Au lieu d'essayer de manipuler son comportement, je vais poser une action. Par exemple, quand je vous disais si une personne laisse un commentaire injurieux, je le supprime, c'est moi qui fais l'action de le supprimer. Je vais pas te dire à la personne « arrête d'être injurieux, arrête de laisser des commentaires, arrête de te comporter comme ça, la personne se comporte bien comme elle veut sur Internet, c'est sa responsabilité de laisser les commentaires qu'elle veut sur Internet. » Par contre, moi, c'est mon action, le respect de ma limite, ma réaction, de venir supprimer les commentaires injurieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La différence. Je sais pas s'il est clair cet épisode, parce que ça reste hyper abstrait, c'est très très clair dans ma tête. C'est pour ça que je vous donne un maximum d'exemples, mais j'arrive pas à me rendre compte si c'est clair pour vous, si c'est vraiment transposable dans votre quotidien, si vous arrivez bien à voir la différence. Ensuite, les limites ne visent pas à manipuler le comportement de l'autre, mais à me protéger. Et en ça, je trouve que c'est plus sain que les attentes. Parce que je trouve que c'est jamais sain d'essayer de manipuler l'autre personne. Parce que je trouve que c'est irrespectueux du libre arbitre de la personne en face. Et puis, bon, la manipulation, c'est pas des bases saines pour une relation, vous voyez. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et donc, la différence entre manipuler le comportement de l'autre et me protéger, c'est que, en fait, l'autre se comporte comme il veut. Moi, je pose des limites en conséquence. Et après, l'autre est adulte. Donc, c'est à lui de voir ce qu'il fait avec les conséquences de ses actions, en fait. Mais je suis pas en train d'essayer de manipuler son comportement pour qu'il le change. C'est pas du tout le but. Par exemple, si quelqu'un va m'appeler à 3h du matin, je ne décrocherai pas le téléphone, c'est ma limite. Je vais pas lui dire arrête de m'appeler à 3h du matin, mais je ne décrocherai pas le téléphone. D'ailleurs, mon téléphone sera en mode avion, donc en fait, ça tombera directement sur répondeur, donc ce sera vite réglé. Mais voyez, cet exemple-là, c'est une action que je mets en place pour protéger la qualité de mon sommeil au cas où quelqu'un décide de téléphoner en pleine nuit. Mais mon but n'est pas d'empêcher les autres de me téléphoner en pleine nuit. Je vais pas laisser un message sur mon répondeur en disant « Oui, si vous m'appelez en pleine nuit, vous vous rendez compte, vous perturbez mon sommeil, je vais pas essayer de culpabiliser l'autre, ni rien du tout. » La personne fait ce qu'elle veut. Simplement, moi, je protège mon sommeil en mettant mon téléphone en mode avion. Et du coup, si la personne essaie de me m'appeler à 3h du matin, la conséquence de ça, c'est qu'elle aura pas de réponse. Tout simplement. Un autre exemple, c'est que si je décide de quitter une soirée parce que les gens fument à l'intérieur et que l'espace est mal aéré et que du coup la fumée m'insupporte, j'ai pas besoin de leur dire pourquoi je pars, j'ai pas besoin d'être désagréable, simplement dire ben voilà, c'était une bonne soirée, merci de m'avoir invité, je pense que je vais rentrer maintenant puis je vais dire au revoir. Parce que le but, j'ai même pas besoin de leur dire ma limite. Ils ont pas besoin de savoir que je m'en vais parce que ça pue la clope. Parce qu'en fait le but n'est pas ni de les empêcher de fumer, ni de les culpabiliser de fumer, ni de changer leur comportement. Le but, c'est tout simplement de protéger ma santé. Donc je peux tout à fait quitter la soirée où il y a trop de fumée de cigarette, en étant tout à fait poli, en étant tout à fait agréable, en me comportant comme j'ai envie de me comporter dans cette situation-là en tant qu'être humain, sans essayer de manipuler le comportement des autres, sans gâcher leur soirée, simplement en disant « voilà, bon, je suis un petit peu fatiguée, je vais y aller, merci de m'avoir invité, salut ». Vous voyez la différence? Si ça avait été une attente, peut-être que j'aurais fait la gueule pendant toute la soirée, ou que j'aurais dit « vous pouvez pas fumer ailleurs, vous rendez compte, c'est pas normal, et la santé, et les autres, et vous voyez ce que je veux dire ? » Et ça aurait été une tentative de manipulation du comportement d'autres, parce que j'avais l'attente que la soirée se passe sans fumer de cigarette. Là, j'ai pas l'attente que la soirée se passe sans fumer de cigarette. Les gens, ils sont adultes. Je pars du principe que si je vais chez quelqu'un, par exemple, et que cette personne est fumeuse, et qu'elle choisit de laisser les gens fumer chez elle, c'est son choix. J'ai pas à interférer là-dedans. Mais par contre, si ça devient insupportable pour moi, j'ai aussi la responsabilité de protéger ma santé et de choisir de quitter la soirée. Je sais pas si vous voyez la différence. La différence entre les deux, c'est que quand je pose ma limite, elle est pour moi, pour me protéger, elle est pas contre l'autre. Elle vise pas à changer le à faire arrêter de fumer les gens dans la soirée. Et elle vise pas à être désagréable en fait et à dire oh bah c'est de votre faute si je m'en vais. Non, c'est pas de votre faute si je m'en vais. Je m'en vais parce que j'ai choisi de protéger ma santé et y a pas besoin d'avoir de conflit en fait. Y a pas de conflit. C'est je fais un choix, je m'en vais, c'est tout. Et j'assume ce choix-là. Après, si la personne me demande pourquoi tu t'en vas toujours quand je fais les soirées, etc., et que la personne veut savoir, bah là je vais choisir dans mes limites et dans mon état d'esprit, je vais choisir de lui dire ou de ne pas lui dire, bah écoute, moi la fumée de cigarette c'est vraiment compliqué pour moi, donc c'est vrai qu'effectivement, quand ça commence à être trop enfumé, je préfère partir. Mais si la personne ne me le demande pas, je vais pas lui dire. Je sais pas si vous voyez la subtilité dans cet exemple-là entre limite et attente. Et je trouve que de poser la limite, c'est beaucoup plus sain pour tout le monde en fait, parce que je passe pas la soirée à faire la gueule, je ne me comporte pas comme j'ai pas envie de me comporter, parce que j'ai pas envie d'être une personne qui passe la soirée à faire la gueule, ou à être ronchon, désagréable, empêcher les autres d'exercer leur libre arbitre, c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Donc moi, ça me permet d'être la personne que j'ai envie d'être, ça me permet de protéger ma santé, et puis ça permet aux autres de passer une bonne soirée quand même. Donc je trouve que c'est beaucoup plus sain, en fait, comme relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, la conclusion que je peux vous dire à ça, ou la conséquence que je peux vous dire à ça, c'est que la différence fondamentale entre des attentes et une limite, c'est que les limites font partie de mes tâches de vie, comme les appelle Alfred Adler, alors que quand on place des attentes, on essaye de manipuler le comportement de l'autre, et du coup on vient empiéter sur les tâches de vie de l'autre, parce que ça fait partie des tâches de vie de l'autre de choisir comment il se comporte. Donc ce qu'Adler appelle une tâche de vie, je vais vous expliquer un petit peu si ça sort complètement du contexte. Ce qu'Alfred Adler, donc c'est un psychologue du début du XXe siècle, qui a... fait ses recherches en même temps que Freud et Jung, qui sont plus connus que lui. Mais moi, j'aime beaucoup les théories d'Alfred Adler, c'est dommage qu'ils ne soient pas plus connus. Et dans ses théories, il a donc ce concept des tâches de la vie, d'adulte. Et pour lui, les tâches de la vie, ce sont les éléments qui sont sous notre responsabilité en tant qu'adulte. C'est-à-dire subvenir à nos besoins, tenir notre maison propre, élever nos enfants, respecter la loi, maintenir un lien social et plein d'autres choses encore. Voilà, il décidait de réunir toutes, finalement, nos responsabilités, notre souveraineté d'adulte dans cette idée de tâche de vie. Et personnellement, j'estime que ça fait partie de nos tâches de vie d'adulte, d'avoir conscience de nos besoins et de faire ce qu'il faut pour les remplir au mieux. Ce ne sont pas aux autres personnes de remplir nos besoins, même si bien évidemment, en tant qu'espèce tribale, nous avons des besoins qui dépendent du social et de la relation à autrui, comme le besoin de connexion, d'amour et d'appartenance. Mais c'est à nous, en tant qu'adultes responsables, d'avoir conscience de nos propres besoins et de faire les actions qu'il faut pour remplir nos besoins. Et pour en revenir aux limites, je trouve que ça fait partie de mes tâches de vie de poser mes limites, parce que c'est une manière de respecter mes propres besoins et de protéger mon bien-être. Mais par contre, ça ne fait pas partie de mes tâches de vie de dicter à une autre personne comment agir. Et c'est ça ce que ça fait les attentes. Une attente envers autrui, c'est dicter à autrui comment il devrait agir. Et C'est le choix de l'autre d'agir comme il ou elle veut. Ce sont ses tâches de vie de décider de respecter les besoins des autres ou pas. Ce sont ses tâches de vie de décider de bien se comporter en société ou pas, d'être poli dans la rue ou pas, de laisser des commentaires injurieux ou pas. C'est leur tâche de vie, c'est pas les miennes. J'ai pas à interférer avec leur tâche de vie, en fait. Par contre, c'est ma responsabilité et ma tâche de vie de protéger mes besoins, ce que je peux faire en posant des limites. Donc je trouve les limites beaucoup plus saines que les attentes, parce que les limites font partie de mes tâches de vie, de ma responsabilité et de ma souveraineté d'adulte, alors que les attentes viennent empiéter sur la responsabilité et la souveraineté d'autres adultes. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc je pense qu'on reparlera de toute cette histoire de tâches de vie, d'indépendance émotionnelle, toutes les nuances qu'on peut apporter à ces sujets-là, parce que si ça se trouve, vous avez des objections à apporter avec des cas très précis. Donc ce sont des sujets qui nécessitent beaucoup de nuances, et je pense que ce sont des choses qui sont très importantes et en même temps très complexes. Et je pense que quelque part, la plupart des choses qui sont importantes méritent de la profondeur. Mais en attendant, en guise d'introduction à ce concept d'attente et de limite, je trouve ma vie beaucoup plus authentique et sereine depuis que j'ai conscientisé cette intention de remplacer les attentes par des limites. Alors évidemment, c'est une expérimentation constante. C'est quelque chose que j'apprends peu à peu, de jour en jour. Évidemment qu'il y a des attentes qui refont surface lorsque je constate le comportement de personnes qui ne me convient pas. C'est normal, c'est humain. Et bien sûr, j'ai aussi du mal parfois à poser mes limites, ça aussi c'est humain, parce qu'on n'apprend pas... En fait, on apprend à attendre des autres qui remplissent nos besoins, mais on n'apprend pas à affirmer les nôtres. Donc à la fois c'est difficile d'avoir de moins en moins d'attentes, et à la fois c'est difficile de poser de manière saine des limites. Donc bien sûr que c'est difficile dans les deux cas, c'est pas... j'arrive pas à le faire de manière parfaitement constante au quotidien tout le temps, mais je porte cette intention au plus près de mon cœur depuis près de 2 ans maintenant, et avec le recul, je constate que j'y parviens de mieux en mieux, donc je suis satisfaite avec moi-même, il n'y a pas de petite victoire. Je constate aussi que ma relation à moi-même et aux autres est de plus en plus saine, parce que je me respecte davantage, et je respecte davantage les autres aussi. Et surtout, ça me donne le courage d'avancer sur le chemin que je me suis choisi, parce que je garde ma souveraineté intérieure, et ça c'est tellement important, on en reparlera aussi. C'est-à-dire que mes émotions dépendent de moins en moins des actions d'autrui que je ne contrôle pas. Et j'ai de plus en plus confiance dans ma capacité à poser mes limites, et des limites adéquates, si je suis face à des comportements qui viennent à l'encontre de mes besoins. Par exemple, par le passé, j'aurais pu ne pas oser publier un contenu par peur de recevoir des commentaires injurieux, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, j'ose publier des contenus qui sont authentiques, avec lesquels moi je suis à l'aise parce que je suis la personne que j'ai envie d'être et je transmets les valeurs que j'ai envie de transmettre, et je fais confiance à ma capacité de poser mes limites si jamais il y a des réactions que je juge inappropriées face à ce contenu. Et du coup j'ose le publier parce que je n'ai plus peur que les autres ne répondent pas à mes attentes, parce que j'ai confiance dans ma capacité à poser des limites si jamais il y a des réactions justement qui viennent empiéter sur mes besoins. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que ça m'aide à beaucoup plus oser tracer ma propre route. Et ça me... Dans un certain sens, ça me libère des attentes que les autres pourraient avoir envers moi aussi. Parce que j'estime que c'est leur problème s'ils ont des attentes, c'est pas le mien. Que moi, ma responsabilité, c'est d'agir en accord avec mes valeurs et d'être la plus respectueuse possible et d'agir du mieux que je peux par rapport à mes valeurs à moi. Mais j'arrive à me détacher aussi des attentes des autres. Ça, on en reparlera aussi plus longuement si ça vous intéresse, cette idée. J'y ai pensé en le disant, là, c'est pas dans mon script. Mais c'est vrai que ça m'a aidé à me détacher des attentes des autres aussi. Voilà, du coup, je voulais partager cette intention que j'ai renouvelée en 2022 de me concentrer sur des limites saines que je pose pour moi-même et auxquelles je me tiens, tandis que je m'exerce à lâcher prise sur les attentes que je peux avoir envers les comportements d'autrui. J'espère que cette piste de réflexion vous sera utile. Si vous avez des questions, des remarques, commentaires ou idées sur ce sujet, vous pouvez les partager en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn171, où vous retrouverez aussi le script de cet épisode en PDF. Vous pouvez aussi me contacter via floriteller.com/contact. Et pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique tous les dimanches matins que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !